Oui, bonsoir. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit François sur l'Afrique. Je prendrai simplement un seul exemple sur l'Afrique et j'essaierai de vous donner quelques exemples pour vous montrer que ce combat aujourd'hui contre les OGM, il ne se mène pas simplement en Europe. Il y a d'autres paysans qui luttent aujourd'hui à travers le monde pour barrer la route aux multinationales. Premier exemple que je prendrai, c'est celui des paysans du Mali qui mènent depuis 2 ans un combat exemplaire par rapport aux firmes qui leur achètent le coton et par rapport aux firmes qui leur vendent les semences pour faire ce coton. Eh bien, ces paysans ont décidé l'an passé de se mettre en grève et d'arrêter de semer. 50% de la surface qui était normalement consacrée au coton au Mali, les paysans ne l'ont pas semé, ils ont fait la grève de la culture. Eh bien, par ce moyen, ils sont arrivés à augmenter le prix payé pour leur coton et ils sont en train d'essayer de mener un combat pour avoir une garantie que le coton qu'ils sèment ne sera pas du coton OGM. Je pense que ça, c'est quelque chose de tout à fait exemplaire. Ça montre que dans d'autres conditions de vie que les nôtres, eh bien, les gens sont prêts à lutter, sont prêts à se battre pour faire valoir leurs droits et pour être sûrs qu'il y a un avenir pour l'agriculture paysanne. Je crois que ça, c'est un exemple tout à fait fondamental. Cet exemple fait écho à celui des paysans indiens qui, l'an passé, ont organisé le premier procès des semences en Inde. Pendant une semaine, les organisations paysannes de l'ensemble du sous-continent indien se sont réunies et ont débattu de l'état de l'agriculture et du lien qu'ils avaient avec les firmes semencières. Des témoignages de différents états ont été amenés devant ce tribunal et des jeunes enfants sont venus expliquer comment leur père s'est suicidé parce que les firmes leur avaient vendu des semences qui n'étaient pas compatibles avec leur sol. Aujourd'hui, ce sont plusieurs dizaines de milliers de paysans en Inde qui se sont suicidés. Ça a été recensé par Vandana Shiva et son équipe. Ils ont établi des catalogues, village par village, des suicides de paysans indiens. C'est quelque chose de parfaitement incroyable dans un pays qui ne connaissait pas le suicide en milieu rural. Ces paysans se sont suicidés la plupart en avalant du Roundup. Donc il faut savoir que cette situation est absolument dramatique. Parce que depuis maintenant 3 ans, en Inde, les 2 plus grands semenciers du monde ont accaparé le marché des semences. La première firme de semences indienne s'appelait Maïko. Elle a été rachetée il y a 2 ans par Monsanto. La deuxième firme, dont j'ai oublié le nom, elle a été rachetée par Novartis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les 3/4 des semences en Inde sont contrôlées par les 2 plus grosses multinationales des semences dans le monde. Et quand ce procès des semences a eu lieu l'an passé, eh bien, en même temps, et c'est pour ça qu'on avait fait ce procès des semences à Bangalore, en même temps se tenait le congrès des semenciers mondiaux qui vendent pour les pays d'Asie. Et parmi ces semenciers, eh bien, il y avait un Français qui s'appelle Limagrain. Donc il ne faut pas s'étonner aujourd'hui qu'on se retrouve à s'affronter avec des gens comme Limagrain. Mais ce combat, il se mène aussi ailleurs sur la planète. Il y a un combat qui est en train de démarrer de manière très forte en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, le gouvernement vient d'autoriser les firmes à faire des essais transgéniques pour la première fois. Mais ces essais ne vont pas se faire n'importe où. Elles ne vont certainement pas se faire chez les paysans néo-zélandais, mais elles vont se faire sur les terres des Maoris, les arborigènes de Nouvelle-Zélande. Eh bien, les Maoris ont décidé de se révolter et ils viennent de mener les premières actions de destruction contre ces essais transgéniques sur leur territoire ancestral. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Alors, on pourrait citer d'autres exemples. On pourrait citer l'exemple du Mexique, où la lutte contre les OGM est prise en charge par l'ensemble des organisations paysannes et indigènes. Et l'actualité de ces dernières semaines rend encore plus important ce combat au Mexique, parce qu'une centaine de scientifiques de différents pays viennent de mener un travail d'analyse au Mexique et de se rendre compte que les variétés de maïs traditionnel, puisque le Mexique est un des berceaux du maïs, eh bien ces variétés en montagne sont aujourd'hui polluées par les OGM résistants aux herbicides et aux insecticides. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le berceau du maïs est contaminé sur sa terre ancestrale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces firmes ne regardent absolument pas sur ce qu'elles font. C'est du profit à court terme, un point c'est tout. Le fait que la biodiversité soit menacée et que les variétés ancestrales de maïs ne puissent plus exister un jour, ce n'est absolument pas leur souci. Pourquoi ce n'est pas leur souci ? Eh bien parce que dans le même temps, ces firmes ont racheté souvent à bas prix les différentes variétés, les variétés des différentes plantes, comme le maïs au Mexique, en Colombie, ou comme le riz aux Philippines, où aujourd'hui Monsanto et deux autres firmes contrôlent 80 000 variétés de riz qu'ils ont en stock. Eh bien, ça veut dire qu'à partir de ces variétés qu'ils ont en stock, ils pourront se lancer dans n'importe quelle manipulation. C'est pour ça que ce combat aujourd'hui contre le brevet sur le vivant, c'est le combat central dans lequel nous sommes amenés à continuer le combat. Jean-Pierre Berland vous l'a expliqué tout à l'heure, aujourd'hui il n'y a pas de solution au combat contre les OGM si nous n'avons pas en ligne de mire la question du brevet sur le vivant. Et si nous avons des questions à poser à ceux qui vont se présenter aux élections, qui décident de vouloir gouverner ce pays, eh bien c'est très clairement la question du brevet sur le vivant. Est-ce que oui ou non vous êtes pour le brevet sur le vivant ? Et si vous êtes contre, est-ce que vous allez mettre en place un projet de loi interdisant le brevet sur le vivant ? C'est la question centrale, il n'y a pas à tourner autour du pot, à savoir s'il y a plus ou moins de risques sur les OGM. La question, c'est est-ce que vous êtes oui ou non contre les brevets sur le vivant. C'est là-dessus qu'il va falloir attendre très clairement et qu'il y ait des réponses claires et sans ambiguïté de la part des candidats dans les prochains mois. Sur cette question des brevets, on pourrait citer juste un petit exemple français que j'aime bien. Parce que c'est celui qu'on nous avait mis en avant quand on nous avait défendu la recherche sur les OGM, la soi-disant recherche publique immaculée qui n'était jamais coupable de rien. Et il y avait un ministre dont c'était le dada, j'ai bien vu dernièrement à la télé qui continuait dans cette logique-là, puisqu'il nous a attaqué violemment la Confédération paysanne et les arracheurs et autres vandales, c'est Monsieur Allègre. Et Monsieur Allègre, que vous avez dû certainement voir, qui continue à sévir sur les ondes, eh bien Monsieur Allègre, il y a 2 ans ou 3 ans, avait décidé de créer un gigantesque institut qui allait révolutionner la recherche et qui s'appelait Génoplante, et qui fait partie de Génopôle. Et la grande idée de Monsieur Allègre, c'était de faire une synergie entre la recherche publique et la recherche privée qui était représentée par Aventis, ex-Rhône Poulenc. Et donc, ils ont fait un montage extraordinaire pour permettre ensuite le dépôt de brevets. Et donc, c'était vraiment la défense de la France. Et on allait voir ce qu'on allait voir. C'était une espèce de nouvelle ligne Maginot pour protéger la recherche française. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé cette année ? Certains l'ont vu. Eh bien, Bayer a racheté Aventis. Et manque de peau, la ligne Maginot a été contournée au bénéfice d'une autre multinationale. Eh bien, quelle a été la réaction de ces braves gens qui sont jamais dépourvus dans cette situation-là ? Eh bien, ils ont modifié les statuts de Génoplante, puisque évidemment avec Bayer, ça fait un peu désordre et qu'on reste bien franco-français, et ils viennent de créer ce qu'ils appellent une SAS. Alors, c'est pas un roman policier, c'est une société anonyme simplifiée qui permet tout à fait de contrôler le lien avec les différentes petites entreprises, Bayer évidemment en moins. Et donc là, on est dans l'escroquerie complète. Monsieur Alex savait très bien ce qui se faisait. C'est de la mystification, comme aime bien le rappeler Jean-Pierre. On est en pleine mystification et en discours idéologique, scientiste. On n'est absolument pas dans un discours cohérent pour un avenir pour l'ensemble des citoyens. Si je parle de ces derniers éléments, et si je suis intervenu sur la question des hommes politiques, c'est parce qu'on a vu, il y a 2 mois de cela avec François à Doha, à la réunion de l'Organisation mondiale du commerce, comment les différents pays industriels, les grandes puissances du monde, les États-Unis, le Canada, le Japon et l'Europe, refusaient de manière catégorique de prendre en compte la révision de l'accord sur le brevetage du vivant. Et il y a eu une grande mascarade à Doha. On a essayé de faire croire à l'opinion publique mondiale qu'on avait pris en compte les questions de brevets sur les médicaments, puisqu'avait été inscrit dans le texte le fait que les pays du Sud pourraient accéder éventuellement à des médicaments génériques sans être obligés de passer par les firmes multinationales. Mais quand on lit le texte en réalité, on s'aperçoit que rien n'est dit pour empêcher les multinationales de continuer leur business et que les pays qui, eux, font aujourd'hui des médicaments génériques, ils ont le droit de les utiliser pour eux, mais ils n'ont pas le droit de le vendre aux autres pays. Et là, on est une fois de plus dans une mascarade. On s'est servi délibérément de cet aspect qui allait toucher l'opinion publique sur les médicaments, sans d'ailleurs le régler au fond, pour empêcher tout débat au fond sur la révision de l'article sur les brevets, sur la remise en cause des brevets sur le vivant, comme le demandaient les pays africains et un certain nombre d'autres pays du Sud. Ça veut dire très clairement qu'à travers cette question des brevets, c'est une histoire de gros sous, c'est une histoire de business pour les multinationales. Et si, de manière très claire, on arrive, pays par pays, à faire voter des lois contre le brevet sur le vivant, c'est tous les OGM qui s'écroulent, car sans brevet, il n'y aura pas d'OGM. Ça, je peux vous l'affirmer de manière très claire, le seul intérêt des OGM, c'est le fric et les bénéfices et le contrôle des paysans et de l'ensemble de la filière agricole. Je terminerai en vous disant que ce combat paysan, c'est pas un combat simplement de paysans, c'est un combat de citoyens, on le voit bien ici ce soir. Et moi, j'ai profité aujourd'hui d'être ici à Valence, d'être au procès, pour participer aussi concrètement aux jonctions des luttes. Parce que très souvent, ce sont les autres catégories sociales, les citoyens en général, qui viennent soutenir la Confédération paysanne dans les combats. Aujourd'hui, à la demande de copains d'attaque qui sont salariés dans une entreprise ici à Valence, je me suis rendu dans cette entreprise, dans une entreprise qui est victime aujourd'hui de la mondialisation, puisque c'est une filiale, alors maintenant j'ai oublié le nom de l'entreprise, mais peut-être que vous... Ascom, voilà, qui est une filiale d'une multinationale suisse. Cette multinationale ayant changé ses actionnaires veulent des dividendes à deux chiffres pour les intérêts de leurs actions, moyennant quoi, comme il y a un trou dans la caisse, parce que les autres filiales ne fonctionnent moins bien, ils ont décidé de vendre ce qui marchait le mieux dans leur groupe pour pouvoir rémunérer les actionnaires. Et ce sont directement les salariés de Valence qui vont payer la casse. Cet après-midi, alors que le procès avait commencé, quand nous sommes arrivés sur le site de l'entreprise, ici, juste dans la banlieue, juste derrière McDo, c'est facile à reconnaître. Il y a, en passant un quart d'heure dans l'entreprise, atelier par atelier, plus de 700 personnes se sont retrouvées sur le devant de l'entreprise et il y a eu un meeting ouvrier-paysan pour dire nous n'acceptons pas cette logique de la mondialisation. Pour moi, ça, c'est un exemple formidable. Moi, c'est un exemple formidable de ce que doit être le combat aujourd'hui. Ce n'est pas un combat où on est chacun de notre côté, mais bien un combat où nous sommes tous ensemble parce qu'on n'accepte plus cette logique du monde. Et c'est ça le travail de la Confédération paysanne. On n'est pas simplement là pour accompagner la disparition des paysans qui est programmée par la politique agricole, mais on est bien là pour changer la société avec les autres catégories sociales. Dernier point, avant de passer la parole à René Louaille, pour vous dire, pour vous annoncer que le 24 janvier, c'est-à-dire jeudi prochain, une semaine en fait avant le verdict de Valence, la Cour de cassation à Paris va rendre son jugement dans le démontage du McDonald's et donc va rendre son jugement par rapport aux 10 condamnés du McDonald's de Millau. Ça veut dire que le 24 janvier, nous serons, si les peines qui ont été prononcées en première instance à Millau, puis ensuite en appel à Montpellier, sont confirmées par la Cour de cassation. Dans la façon dont nous avons défendu notre dossier à la Cour de cassation, c'est sur des questions de principe et pas du tout sur des questions d'artifice juridique pour faire casser la décision. Donc nous savons a priori aujourd'hui que la décision le 24 janvier sera le maintien de la condamnation de Millau et de Montpellier. Ça veut dire que, pour moi par exemple, ça va se traduire par le fait que début février, je vais être amené à être allé en prison. Ça veut dire que je vais être condamné à accomplir la peine pour laquelle j'avais été condamné à Millau et à Montpellier. Alors pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose de déshonorant, ça je pense que vous l'avez compris. Ce n'est pas du tout quelque chose qui m'angoisse en termes individuels, parce que j'y suis préparé. Mais par contre, c'est une véritable opportunité pour nous tous de profiter de ce moment où va s'ouvrir le salon de l'agriculture pour faire avancer encore plus notre idée du refus du bruit vent. Et je crois que là, on a un moyen pour élargir tous les combats contre la criminalisation du mouvement social, et Dieu sait s'il y a des exemples, pour faire en sorte que notre projet de transformation de la société ait un sens, et pour faire en sorte que la campagne électorale de quelques écuries présidentielles eh bien, se transforme en véritable débat autour des questions que nous posons. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est eux qui se situeront par rapport à nous et pas l'inverse. Et si cette situation dure, eh bien, quand les élections présidentielles arriveront, que le deuxième tour arrivera et qu'il faudra mettre son bulletin dans l'urne, si rien n'a changé d'ici là, eh bien, la seule chose qui nous restera à faire, c'est de prendre un bulletin blanc et de marquer dessus « Yabasta », »,« Y en a marre », »,« Y en a assez », et de le mettre dans l'urne. Merci.